Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Christian Page est toujours avec nous, suite de cette histoire sur le spiritisme. Après la réplique des coups dans le mur.
Dans le mur, donc les sœurs Fox vont entreprendre de communiquer avec ce monsieur, oui. Ce Splitfoot. Elles vont établir une espèce de code, un nombre de coups pour oui, un nombre de coups pour non. Elles vont également demander à l'esprit, entre guillemets, d'épeler son nom. Il va dire qu'il s'appelle Charles Rosma. Il dit être un colporteur qui aurait été assassiné dans ces lieux. Mais quoi qu'il en soit, que l'on accepte ou non cette histoire-là, l'événement lui-même, le fait qu'on communique pour la première fois avec un esprit, ça attire énormément l'attention. Bientôt, l'histoire des sœurs Fox déborde du comté. Les gens se réunissent dans la petite maison de la famille Fox pour entendre presque chaque soir les fillettes, les deux adolescentes, parler avec cet esprit. Et rapidement, bientôt à travers les États-Unis, des gens vont se déclarer eux aussi en contact avec les esprits. Ils vont établir des mécanismes de communication, donc des tables qui peuvent tourner, des guéridons. On va établir également d'autres mécanismes qui vont devenir un peu les ancêtres de nos fameuses planchettes Ouija.
Ouais, ben oui.
Et cette histoire de communiquer avec l'esprit, les esprits va gagner l'Europe où il va se hisser au rang d'activité bourgeoise. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, on est à peine quelques décennies après l'affaire des sœurs Fox, il y a un instituteur français dont je t'ai glissé un mot la semaine dernière, un type qui s'appelle Hippolyte Rivaille, qui va se découvrir des dons de médium, qui va prendre le nom de l'esprit qu'il canalise, un ancien druide du nom de Alan Kardec. Et c'est ce Hippolyte Rivaille qui va établir des lois. Il va dire, les gens qui meurent, il y a quelque chose qui se passe dans l'au-delà, on se réincarne. Et on se réincarne toujours en un être humain. On ne se réincarne pas en un chien ou un oiseau. Et c'est assez amusant parce que la vision que l'on a aujourd'hui, le monde occidental de la réincarnation, c'est cette idée-là. Donc, on est la réincarnation de quelqu'un de passé. Et c'est Alan Kardec qui va établir ça. Et avec ses lois, il va transformer le spiritisme en une religion qui existe encore aujourd'hui, qui est le spiritualisme. Donc, on s'inspire de ces règles, de ces lois universelles proposées par Alan Kardec à travers ses échanges de médiumniques. Et c'est un peu le... Et tout ça a commencé, on est en mars 1848, dans une petite cabane de bois à Hydesville, dans l'État de New York.
Parmi les histoires mystérieuses des dernières années, celle-ci, elle est quelque chose.
Ouais,
c'est le fameux vol MH370 de la Malaysia Airlines.
Oui, on ne pouvait pas terminer le mois de mars sans rappeler ces événements. On est le 8 mars 2014, je te rappelle, ce soir-là, minuit 40, un Boeing 777-200ER, donc une version un peu plus courte du Boeing 777, décolle de l'aéroport de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Il est minuit 40. L'appareil contient 239 passagers. Donc, tout se passe normalement. À minuit une, le pilote contacte la tour de contrôle de Kuala Lumpur pour dire qu'ils ont atteint leur altitude de 35 000 pieds et que tout va pour le mieux. Et puis, voilà qu'à 1h19, à nouveau, le pilote prend contact avec la tour de Kuala Lumpur. À ce moment-là, l'avion quitte les écrans radar parce qu'il sort de la couverture radar de l'aéroport de Kuala Lumpur. Et le pilote dit simplement « Bonne nuit, Malaysia Airlines 370 ». C'est la dernière communication qu'on a avec l'appareil. Il est à ce moment-là 1h19. À 1h21, les transpondeurs de l'appareil sont coupés. Qu'est-ce que c'est que les transpondeurs? Les gens s'imaginent généralement, quand on voit un écran radar, que les points qui apparaissent sur l'écran radar sont des objets qui sont en l'air, que le radar détecte ce qui est en l'air. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. C'est une reconstitution un peu télémétrique, puisque les avions sont tous dotés d'un petit appareil dans la queue qui s'appelle le transpondeur, qui envoie un signal à la tour de contrôle qui dit « Je suis tel avion, je vole à telle altitude, je me déplace de telle direction. » Et ces informations télémétriques sont récupérées par le radar qui les transpose dans une espèce d'environnement artificiel que l'on voit apparaître sur l'écran. Et cette coupure des transpondeurs ne peut se faire que de manière manuelle. Ce n'est pas un bruit mécanique, c'est pas un problème électronique, c'est quelqu'un à bord de l'appareil qui a coupé la communication. Il est à ce moment-là 1h21, paf, on coupe la communication des transpondeurs. À ce moment-là, bien sûr, l'appareil disparaît des écrans radars. Il n'y a pas d'appel de détresse, il n'y a rien qui est envoyé, simplement une coupure des transpondeurs. À ce moment-là, on ne peut plus détecter l'avion puisqu'il n'y a plus cette balise de communication. En revanche, on sait qu'il y a à ce moment-là un satellite géostationnaire au-dessus de la Malaisie qui, lui, capte des transformations, ou en tout cas des perturbations électromagnétiques. Il envoie des signaux et on parle ici d'un satellite géologique, le Géos 7 ou Géos 1, quelque chose comme ça. Donc, lui, il enregistre des pings, hein, donc des petits sursauts électromagnétiques qu'on pense être produits par l'avion, ce qui nous permet aujourd'hui de reconstituer un peu le vol à la Malaysia Airlines. On sait que l'appareil, après avoir coupé les transpondeur, il a fait demi-tour. Il est allé au-dessus du détroit de Malacca qui sépare la Malaisie du Vietnam, à peu près, on est dans cette zone-là. Et ensuite, il a continué à reprendre la direction vers le sud pour s'en aller au-dessus de l'océan Indien. On suppose, à partir de ces pings captés par le satellite géostationnaire, que l'appareil aurait probablement volé encore pendant 6 heures, probablement jusqu'à l'épuisement des réserves de carburant. Pourquoi? Dans quel but? On l'ignore, il n'y aura aucune autre communication avec l'appareil et il faut attendre. Évidemment, l'idée, c'est que l'appareil a dû s'écraser quelque part dans l'océan Indien.
On est dans un endroit immense.
Immense. On va entreprendre, en fait, c'est les plus grandes recherches jamais établies pour retrouver un appareil civil. On ne retrouvera absolument rien. Pas le moindre débris, rien en mer. Rien, là. C'est vraiment... Et là, évidemment, on se met à changer les zones de recherche. Est-ce qu'on a cherché trop à l'est, trop à l'ouest? Au début, on favorise une région au large de l'Australie. Ouais. Et ensuite, on change le terrain des recherches. Il faut attendre l'été 2015 pour qu'un premier débris, un flaperon, donc une partie de l'aile de l'avion, soit retrouvée sur l'île de la Réunion, au large de la côte est de l'Afrique. C'est une île qui est au large de la côte est de l'Afrique. On va trouver ce flaperon qui vient confirmer l'idée que l'appareil s'est très certainement abîmé en mer. Et puis, en septembre 2015 et février 2016, on va trouver 2 autres débris métalliques sur les côtes du Mozambique, qui vient ajouter à cette idée. Ces débris seront éventuellement identifiés formellement comme provenant du MH370. Et au moment où on se parle, et ça jusqu'en avril, il y a à nouveau une nouvelle... Parce qu'on a abandonné les recherches à un moment donné, on a déclaré que tous les passagers devaient être morts, même si on ne connaît pas ce qui est advenu réellement de l'appareil. On n'a pas retrouvé la partie centrale de l'avion. Et puis, au moment où on se parle, et ça depuis le mois de janvier, il y a une nouvelle équipe qui est en mer dans l'océan Indien, qui s'appelle Ocean Infinity, qui, elle, continue de faire des recherches et avec la promesse, si elle trouve l'appareil, et ça, c'est bien important de dire, si elle trouve l'appareil, elle recevra une récompense de 70 millions de dollars que s'est engagé à verser le gouvernement malaisien si on retrouve l'appareil. Mais si on ne retrouve rien, évidemment, il n'y aura pas un sou de versé. Donc, la compagnie est là jusqu'à la mi-avril à peu près, dans l'espoir de retrouver cet appareil. Et tu comprends que c'est devenu, avec l'absence finalement de quoi que ce soit, c'est devenu le plus grand mystère de l'aviation civile. Avant,
le plus grand... dans ces années-là.
Voilà, parce que...
En 2014.
Voilà, il y avait le plus grand mystère de l'aviation était considéré comme la disparition d'Amelia Earhart, une aviatrice dont on a déjà parlé.
Il était un duo, là, tu sais.
Voilà, c'était un duo. C'était le début de l'aviation. On est en 1937, juillet 1937. Elle se perd quelque part dans le Pacifique en essayant de rejoindre un tout petit atoll qui est l'île de Harlan. On n'avait pas les technologie d'aujourd'hui, on n'avait pas de satellite, on n'avait rien. Donc, la disparition d'Amelia Earhart, aussi mystérieuse soit-elle, elle ne défie pas toutes les connaissances technologiques ou toute l'attirail technologique que l'on a. Alors que le MH370, on s'arrache un peu les cheveux. Comment un appareil aussi important, muni de tous les équipements sophistiqués des années 2000, a-t-il pu comme ça disparaître, gommé de la surface de la Terre? Et on comprend que les familles restent encore et évidemment, en quête de réponse malheureusement que l'on n'a pas.
C'est parmi toutes les thèses qui ont été évoquées, celle qui est revenue assez régulièrement sur l'espèce de dépressurisation à l'intérieur. Ce qu'on soupçonne, c'est que finalement, l'entièreté des gens qui se trouvaient à bord se sont trouvés dans un état où ils sont morts carrément. Oui. Et l'appareil, lui, était en état de pilotage automatique.
Voilà.
Et il a continué sur sa croisière comme ça jusqu'à temps que le carburant commence à...
Mais pourquoi a-t-on coupé les transpondeurs? Pourquoi a-t-on fait changer de direction? Ces manœuvres-là ont dû être faites obligatoirement de manière volontaire. Ce que tu parles, la dépressurisation, un avion de grec, je crois, avait subi cet effet-là. Et ce n'est que quand des pilotes de chasse se sont approchés de l'appareil, qu'ils ont vu à travers les hublots, que tout le monde était inconscient à bord de l'appareil qui finalement s'est crashé.
Chasse aux ovnis en Belgique. Il nous reste deux minutes pour en parler de ça à peu près. C'était sur les derniers jours du mois de mars 90.
Voilà, et c'est probablement l'un des événements qui a fait le plus jaser dans l'histoire des ovnis. En fait, c'est un événement qu'on parle encore aujourd'hui. On est, il faut savoir, on a une première prémisse. À l'automne 1989, les observations d'ovnis en Belgique augmentent de manière fulgurante. Et en particulier dans la partie française de la Belgique, la Wallonie. On comprend que la région de Bruxelles est un peu une enclave là, au pays flamand. Mais en fait, c'est la région française de la Belgique. Et voilà qu'on observe beaucoup d'ovnis, tant et si bien que l'armée est sur le pied de garde. L'ovni est souvent une espèce de triangle volant qui parfois fait des vols immobiles. Il est toujours silencieux. Et dans cette nuit du 30 au 31 mars, toutes les conditions sont réunies. L'objet est détecté par des radars. On envoie deux appareils F-16 à la poursuite de l'ovni. On va le capter à 13 reprises sur le radar. À trois moments, on va pouvoir faire un ciblage qui montre des évolutions, des déplacements aéronautiques de l'ordre de 30 G. Aucun être humain ne peut supporter une évolution comme celle-là, une manœuvre comme celle-là, et aucun avion non plus ne peut faire ça. Et malheureusement, il n'y aura jamais de contact visuel entre les pilotes et l'OVNI en question. Tant et si bien qu'encore aujourd'hui, plus de 25 ans après les événements, on se demande quel était ce mystérieux intrus dans le ciel de la Belgique.
Merci beaucoup, Christian Page.
Ça m'a fait plaisir.
Dimanche prochain, je sais que tu es en conférence à Québec.
Oui, absolument. Le 31 mars, ce sera sur les enlèvements extraterrestres à l'Université Laval.